Hello à tous, bienvenue dans la chronique marketing. Ce podcast est produit par Affect Media, le web média qui décrypte toute l'actualité marketing. Aujourd'hui, nous recevons Paul Charron, co-founder d'Hommage, la plateforme de seconde main certifiée impeccable. Dans cette conversation passionnante, Paul nous raconte son aventure entrepreneuriale, sa transition vers une vie plus green et la très belle évolution d'Hommage. Bonne écoute! Bonjour Paul.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder du temps.
Avec plaisir.
On est très content de te recevoir pour que tu puisses nous présenter Hommage. Est-ce que, avant qu'on rentre dans cette conversation autour de Hommage, tu peux te présenter ?
Ouais, bien sûr. Je m'appelle Paul. Je suis un des deux cofondateurs d'Hommage. Dans la vie, j'ai 32 ans.
Ok.
J'ai un enfant, bientôt un deuxième.
Wow.
Dans les deux prochaines semaines.
Félicitations.
Merci. J'habite à Paris, je suis originaire de région parisienne, d'une famille franco-anglaise. Je suis passionné par l'écologie, le rugby, et du coup, je suis embarqué dans une aventure entrepreneuriale depuis 2 ans et demi dans la mode de seconde main.
Super, j'ai déjà plein de questions, mais avant que je te les pose, est-ce que tu peux nous présenter Hommage ?
Ouais, alors Hommage, c'est le site de seconde main certifié impeccable. On a créé ça en 2021 avec l'objectif de rendre la seconde main hyper simple, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Pour les vendeurs, ça veut dire que très concrètement, on propose un service de revente de vêtements clés en main. Donc tu as des vêtements à vendre, tu les mets dans un carton, tu nous les envoies, nous on s'occupe de tout le reste. Contrôle qualité, prise de photos, création de la fiche produit, fixation du prix, stockage, envoi, on fait tout à ta place, toi tu fais rien et t'es payé quand c'est vendu. Et côté acheteur, en fait, on recrée une expérience d'achat qui est beaucoup plus proche de celle du neuf que de celle dont on a l'habitude sur les plateformes de seconde main entre particuliers. Donc ça veut dire que nous, déjà, tous les vêtements ils sont certifiés impeccables par notre équipe qui agit comme un tiers de confiance. Tous les visuels ils sont pro et clean, les prix ils sont fixés par des algorithmes, le service client il est dispo pour répondre à tes questions, la logistique elle est professionnelle, nickel, et t'as la possibilité de faire des retours si les vêtements te vont pas.
Ah oui, ça c'est quand même un grand grand plus. C'est vrai que la grande valeur ajoutée que vous avez par rapport à un Vinted, pour ne pas les citer, c'est que vous faites tout. Aujourd'hui, vendre sur Vinted, c'est hyper compliqué parce que déjà on vend un moindre coût et en plus de ça, il faut absolument tout gérer. Donc ça, c'est votre valeur ajoutée. Et comment vous avez identifié ce problème ? Est-ce que c'est justement en analysant un peu la concurrence ?
Tu cites exactement les points de friction que nous, on avait identifiés, mais notamment parce qu'on les avait rencontrés nous-mêmes en tant qu'usagers de ces plateformes. Donc, avec mon associé Marine, on avait fait une espèce de transition personnelle, chacun de son côté, progressivement dans les dernières années. Et donc, on s'était mis à utiliser beaucoup des applications comme Vinted, que tu as cité évidemment sur la mode, mais aussi Le Bon Coin, qui fonctionne un peu de la même manière. Et on s'était rendu compte que, il fallait avoir la motif, quoi. Pour s'en servir quotidiennement, en particulier quand on a une vie super active, qu'on bosse, potentiellement qu'on a une vie de famille, etc. En fait, mettre des articles en vente, ça prend vachement de temps, faut prendre des photos, faut créer la jolie annonce, trouver le bon prix, la plateforme elle tire les prix vers le bas, toi tu te sens pas très à l'aise avec ça, ensuite faut négocier, il y a des gens qui sont un peu désagréables, ils te demandent des photos portées, toi tu veux pas faire des photos portées, enfin voilà, après il faut faire des colis, il faut tous les emmener au Mondial Relais, et ça c'est quand tu vends, et il y a plein de moments où les trucs tu les vends pas, ils restent dans ton placard, ça te prend la tête, tu te dis en fait non, je préférais que ce soit plus chez moi. Et nous on avait vraiment ressenti ça, et ça c'était surtout mon associé Marine qui avait senti ça, et moi plutôt côté acheteur, où je me disais en fait ça fait pas envie les visuels. Les prix sont souvent déconnants, j'ai aucune garantie sur la qualité et souvent j'ai été déçu. Donc en fait je reçois un truc, c'est pas la taille qui est indiquée, il y a une tâche alors que j'avais pas été prévenu, et juste le truc ne va pas, je peux pas faire de retour, je me retrouve avec des pièces sur les bras que j'ai mis vachement longtemps à choisir parce que je suis assez j'essaie de faire vachement attention à ma consommation de vêtements, et en fait je me retrouve avec des trucs importables sur les bras, et du coup expérience pas top quoi. Donc moi je me dis c'est pas grave, je suis hyper convaincu, j'ai mes valeurs auxquelles je crois à fond, donc c'est pas grave, je recommence, et si je suis insatisfait ça fait partie du voyage. Mais je me dis, si on s'est dit du coup avec Marine, s'il y a des gens qui ont pas les mêmes convictions que nous, ils vont jamais s'y mettre, ça va jamais être un réflexe pour eux d'aller sur une plateforme de seconde main plutôt que d'aller chez Cézanne ou chez Sandro ou je sais pas quoi pour acheter des vêtements où tout est beaucoup plus clean, plus simple, plus clair. C'est comme ça qu'on a eu l'idée d'Hommage.
Ok. Et justement, tu parles de transition écologique. Comment, toi, le déclic s'est fait ?
J'aime bien quand on pose cette question parce que la réponse pour moi, elle est hyper précise. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre, mais en fait, le 1er mai 2017,
wow.
j'ai regardé un documentaire. En fait, c'est un truc tout bête. On était au ski pour la clôture de la saison de ski avec ma copine qui du coup est devenue ma femme entre temps, et il faisait super moche le dernier jour, et du coup on est resté pour regarder des documentaires, et on nous avait conseillé, voilà, une amie qui nous avait conseillé de regarder un documentaire sur la consommation de viande et l'impact que ça a sur l'environnement, et le documentaire il s'appelle Cowspiracy, donc il est assez connu, et nous on était des gros viandards, on adorait la viande rouge, notre resto préféré c'est un resto de viande à Paris, donc on était là, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous avait conseillé de regarder ce documentaire là, et du coup on le regarde et là ça a été genre une énorme claque, et on s'est dit quoi, attends, mais comment c'est possible et tout, et du coup on a commencé à enchaîner les documentaires sur cette thématique, et puis bah, Netflix c'est un moteur de recommandation, ouais, qui au final quand tu y sens que t'as mis le doigt dans une thématique il te pousse plein d'autres trucs, donc on a regardé celui-là sur l'alimentation carnée et en particulier la consommation de bœuf, puis The True Cost qui est un documentaire assez important sur la mode et ça commence avec l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui est un méga drame qui a mis un peu la lumière sur les conditions de travail horribles qu'il y avait dans les pays d'Asie où on fabrique nos vêtements. Puis ensuite, voilà, on a continué, on a regardé des trucs sur le minimalisme, sur le zéro déchet, etc. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est le mode de vie que nous, on avait à l'époque, qui était celui de voilà, quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans, qui est diplômé de grande école, qui va en vacances aux quatre coins du monde, qui mange de la viande sans réfléchir, etc. Mais en fait, c'est un mode de vie hyper émissif, hyper problématique. Et je sais qu'il y a des gens qui s'en rendent compte et puis qui préfèrent fermer les yeux sur le problème parce que c'est plus simple et je respecte. Nous, ça n'avait pas du tout été le cas et du coup, on a décidé de tout changer. Donc, devenir végétarien, arrêter de prendre l'avion, tout consommer de seconde main. On a essayé de devenir zéro déchet, en fait c'est quand même vachement dur, donc aujourd'hui on fait ce qu'on peut, on achète plein de trucs anti-gaspille, et en fait c'est juste que petit à petit on a commencé à rentrer dans une manière plus consciente de consommer. Donc tu te poses des questions en fait à chaque fois que tu veux acheter un truc, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je peux pas le trouver de seconde main, ça devient un peu un jeu, tu fais des économies en plus, enfin du coup ça te permet d'être moins dépendant à un salaire, une situation financière, tu sais qu'on bourre beaucoup le crâne en école là-dessus, ça te permet de vachement te libérer de ça et du coup de trouver un taf qui correspond plus à de reconnecter en gros tes aspirations perso avec le pro, enfin bref, pour nous ça a été hyper cool quoi comme transition.
Et tu faisais quoi avant comme travail?
J'ai bossé pendant 5 ans dans un cabinet de conseil américain qui s'appelle Bain & Company, et après j'ai bossé pendant 2 ans et demi en finance, pendant notamment les années où j'étais en conseil en stratégiste. C'était un job où tu voyages beaucoup, travailles beaucoup, t'es très bien payé, du coup t'es un peu dans un truc comme ça, genre la fast life, tout va hyper vite, et t'aspires que à tes prochaines vacances à l'autre bout du monde, t'as fait quel pays machin et tout, on était vraiment embarqué dans ce truc, et ça nous a permis du coup de j'ai changé de taf à ce moment là puis cette transition ça te permet d'ouvrir un peu les yeux sur ton boulot, de dire oula, en fait mais qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment cohérent, est-ce que j'apporte vraiment, est-ce que j'essaye d'apporter une solution au problème que j'ai identifié, non pas du tout, du coup faut que je change, et voilà, ça s'est fait naturellement.
Mais avant de voir ce documentaire, est-ce que tu étais heureux dans ton travail ou est-ce qu'il y avait déjà un problème d'équilibre?
Non, moi j'étais hyper heureux dans ma vie d'avant.
Tu te rendais pas du tout compte?
Non.
Ok.
Non, j'étais. Mais en vrai, j'aurais adoré continuer comme ça si en fait ça posait pas de problème par ailleurs, tu vois. Donc si on avait trouvé une solution miracle pour qu'on puisse continuer à prendre l'avion comme moi je le faisais à l'époque, on a fait des super voyages avec ma femme, du coup avec ma copine à l'époque. On a vécu un peu en Océanie, on a fait des voyages en Asie centrale et tout, enfin c'était trop bien quoi, on découvrait plein de trucs, on était fan de ce mode de vie, et effectivement moi je trouve, même si maintenant je suis végétarien, je peux pas manger de viande rouge depuis je sais pas combien de temps, dans mon souvenir j'adore ça quoi, donc oui ça aurait été cool de continuer, mais en fait quand tu sais,
tu peux
plus revenir en arrière, je trouve.
T'as tout arrêté d'un coup ou ça a été vraiment étape par étape? Parce que quand t'as vu le documentaire, tu t'es dit le lendemain je deviens végétarien, ensuite je fais attention à ma consommation?
J'ai tendance à souvent être assez radical dans mes décisions comme ça, mais il se trouve que là du coup on est passé de 100% à manger de la viande tout le temps à une fois par semaine. Je dis on parce qu'en soi c'était vraiment avec Camille, ma copine, qu'on a fait le truc ensemble, et je pense que si tu le fais pas ensemble ça peut être compliqué d'être ultra radical dans
c'est
tes
clair.
Choix si en fait faut commencer à faire la bouffe pour deux personnes avec des menus différents et tout, donc nous on a l'avantage c'est qu'on l'a fait ensemble, et non mais en fait le problème elle nous a tellement sauté aux yeux qu'on s'est dit ok en fait je peux pas juste juste faire semblant, enfermer ton ordi et dire ah c'était cool ce documentaire, on enchaîne sur quelle série, tu vois. Enfin c'était pas possible pour nous. Donc ouais, on a été assez radicaux et on s'est dit on garde un jour par semaine parce que ça paraît complètement raisonné. Et ça permet de faire mieux passer la pilule du côté social, parce qu'en fait il y a beaucoup de questions. Alors il se trouve qu'à l'époque on a pris la décision, c'était juste avant d'aller vivre en Australie et pendant plusieurs mois, et là-bas tout le monde est hyper chill sur ces questions. Il y a la moitié de la population à Melbourne où on était qui est végétarienne, tous les restos ils ont plein d'options végétariennes et tout, donc c'était vraiment une lettre à la poste, ouais, hyper en avance. Et donc c'est vraiment passé hyper bien. Et après tu rentres en France et là tout on est là quoi,
ouais.
Et attends, mais
t'as
décidé d'arrêter. Mais genre le saucisson ça compte et les lardons et tout, t'es là bah ouais,
bien sûr.
Oui. Et du coup le fait de garder une fois par semaine, on s'est dit que ça aiderait à ce que ce soit plus acceptable avec nos potes et nos familles. Et en fait rapidement j'ai décidé de tout enlever, notamment parce qu'en fait le fait de dire oui je fais des exceptions de temps en temps, mais en fait dès que tu vas chez des gens ils considèrent que tu vas faire l'exception pour ce dîner là. Du coup, si tu fais 2-3 dîners dans la semaine, tu finis par faire 2-3 exceptions alors que t'avais dit une. Et tu vois, et si tu dis, bah non, les gars, moi, je veux pas faire d'exception ce soir, tu passes pour le relou parce qu'ils disent, mais attends, je pensais que tu faisais des exceptions. Enfin, voilà. Super compliqué dans le discours. En fait, si tu tranches en disant, bah voilà, je suis végétarien.
Et c'est comme ça.
C'est comme ça. Et là, du coup, bah, tu mets les gens un peu face à cette décision. Du coup, t'as des conversations plus intéressantes qui font que, plutôt que, voilà, les gens se disent, bon, bah, ils feront une exception quand ils viennent chez moi, ils sont obligés de se décarcasser un peu la tête pour trouver des recettes. Machin, et après ils te posent des questions, mais pourquoi tu fais ça, et ça te permet toi d'expliquer la démarche. Je trouve que les gens avaient une oreille plus attentive quand on a pris cette décision un peu plus radicale. Donc plutôt tendance à prendre des décisions assez radicales. Sur l'avion ça a été assez radical aussi, modulo. Enfin voilà, là j'ai deux potes qui se sont mariés fin l'année dernière et un autre cette année, qui se marient au Liban, au Maroc. Bon bah qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas pas, moi j'ai décidé d'y aller finalement, voilà, on n'y va pas à deux. Enfin bref, il y a plein de décisions un peu pas faciles comme ça, donc je suis pas non plus un ayatollah du truc, mais quand même j'essaie d'être un peu radical dans les décisions.
Ok, tu m'as parlé de zéro déchet concrètement. Enfin, du coup vous avez pas réussi encore à être zéro déchet. Comment ça se passe dans ton quotidien
là-dessus? Alors c'est assez compliqué. En France, c'était plus simple de mémoire quand on habitait en Australie encore. Ouais, assez en avance sur ces questions-là, mais en France, d'avoir l'intégralité de tes courses sans plastique. En gros, c'était ça notre objectif, c'est d'éliminer au maximum le plastique. Trouver des gens qui te vendent des produits sans vrac, soit consignés dans des bocaux en verre, etc. Et ça court pas les rues, en fait. Donc il y a quelques supermarchés, mais en fait, si c'est pas dans les 100 mètres autour de chez toi, bah, en fait, tu vas pas. Enfin, c'est compliqué de t'organiser. Il y a des services qui se sont développés puis qui ont fermé parce que le modèle économique il est pas facile, etc. Donc au début on se mettait une pression de dingue, et en fait c'était un peu malsain de se mettre une pression aussi forte alors qu'il y a des éléments exogènes que tu peux pas contrôler, notamment l'offre disponible. S'il n'y a pas d'offre, tu peux aller jusqu'à un certain point dans ton organisation personnelle, mais si l'offre est pas encore là à disposition pour t'aider dans cette organisation, je trouve qu'il faut pas se mettre trop de pression. Et c'est ce qu'on a pu faire avec ma femme à l'époque. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye au maximum d'acheter les trucs en vrac, mais donc typiquement il y a plein de trucs en vrac, même chez Naturalia machin, enfin voilà, il y a certains supermarchés même pas bio qui se sont lancés dans un rayonnage vrac assez fourni. Enfin les fruits et légumes c'est hyper facile pour le coup, il suffit de les acheter chez les imprimeurs ou un truc comme ça, et pas dans un supermarché. On a tendance à un peu trop suremballer. Faire attention quand il y a des alternatives qui sont dans des bocaux en verre plutôt que du plastique, les privilégier, et ça c'est ce qu'on fait. On regarde un peu les boîtes qui se lancent dans la consigne, donc il y a des startups qui sont en train d'essayer de remettre ça au goût du jour pour l'alimentation et les boissons. Alors ça dessert pas beaucoup Paris intramuros pour l'instant, parce que je crois que le modèle logistique il est assez difficile à opérer dans Paris, mais peut-être qu'un jour ils y arriveront et nous on sera certainement clients. Et après on se dit qu'à l'impossible nul n'est tenu, donc si parfois tu dois faire des écarts, tu le fais. Et l'autre moment où on fait des écarts, c'est sur la partie anti-gaspi. Donc on considère que vaut mieux acheter des trucs mal emballés pour les manger plutôt qu'ils soient jetés à la poubelle et que toi t'as acheté tes trucs en vrac. Voilà. Donc on fait aussi des compromis là-dessus, et je sais que on met un point d'honneur à passer, je sais pas, je donne des exemples, peut-être que les gens ils pensent que je suis fou, mais tous les soirs on passe dans le Franprix à côté côté de chez nous qui brade les trucs la veille au soir avant qu'ils soient jetés à la poubelle le lendemain matin. Et du coup, là, on récupère les trucs que nous, on veut manger. Et ça permet d'éviter plein de trucs. Parce qu'en fait, on a vu des montagnes de poubelles le matin en allant dans le Franprix à côté. Et on s'est dit, OK, c'est pas possible. Et je préfère, du coup, acheter des trucs mal emballés en les sauvant de la poubelle. Plutôt que de me dire, non, c'est dans du plastique. Fermer les yeux sur le fait qu'ils vont les balancer, enfin, qu'ils vont les baigner le lendemain matin. Et moi, aller acheter mes trucs en vrac. Et du coup, être bien dans mes baskets, mais en sachant pertinemment qu'il y a des trucs qui ont été jetés et que j'aurais pu sauver. Donc voilà, c'est toute une histoire de compromis. Je pense qu'il faut aborder ça en étant assez serein, pas trop se flageller, step by step. Si t'es capable de prendre des décisions un peu radicales, bah fais-le, c'est cool. Et t'auras des cool conversations avec ton entourage. Pas toujours facile, mais en tout cas elles sont profondes et tu verras peut-être du changement autour de toi. Et puis si t'es pas capable d'être aussi radical, c'est fine, tu vois, tu vas petit à petit.
Ok. Et aujourd'hui, ton entourage, est-ce qu'ils t'ont suivi dans ta lancée écologique?
C'est sûr que ça fait du changement,
hein. Ouais.
Parce que d'un coup tu changes un peu.
Et puis toi, c'était vraiment
et surtout tu reviens de nous, en l'occurrence, on est revenu de 8 mois de voyage en Océanie, et les gars ils étaient là, ok, ils ont...
c'est pas les mêmes personnes,
je sais pas ce qui leur est arrivé là-bas, mais ils me parlent d'être végétarien, zéro déchet et tout. Donc oui, ça a été un peu radical. Alors au début, il y a un peu de... on se fout un peu de toi, il y a des moments un peu désagréables où les gens ils viennent exprès avec des saucissons, des trucs, pour rigoler et tout. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai un groupe de copains qui est un humour off parfois. Okay. Voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens, ils, sans nécessairement adhérer, en tout cas, ils comprennent, ils respectent, et du coup, moi, j'ai surtout vu des potes super mignons qui t'invitent chez eux, et là, tu sens qu'ils se sont grattés la tête pendant des plombes pour trouver un truc végétarien. Ils ont dit, en fait, suffisait de faire une quiche au poireau, quoi, mais en fait, tu peux, ils ont l'impression qu'il faut faire des trucs de ouf. Alors, du coup, ils achètent des livres de recettes et tout. Et pareil, côté famille, où le plus dur, c'est les grands-parents, hein, parce que forcément, eux, ils sont dans un... Ils ont un prisme un peu différent encore. Ils peuvent te voir un peu comme un marginal ou pas, en tout cas avoir l'esprit formaté un peu différent. C'est pas de leur faute. Hein. Donc voilà, ils ont toute leur vie, ils ont vécu dans un monde où il n'y a pas du tout ces problématiques-là. Là c'est un peu dur. Tu te retrouves à manger des patates et des haricots alors que tout le monde a le rôti qui va avec. Mais bon, voilà, c'est sûr, c'est plus dur pour eux de s'adapter. Mais typiquement, mes familles proches, frères et sœurs, parents, ils sont vachement bien adaptés et tu vois qu'ils se posent plus de questions. Alors au début, c'est des mauvaises questions. Je voyais aussi qu'ils arrêtaient pas de s'excuser en arrivant chez nous parce qu'ils avaient pris des trucs mal emballés ou je sais pas quoi. Donc il y avait quand même cette réflexion.
Il y avait
quand même
la culpabilité partout, quoi.
Ouais, alors c'est pas nécessairement l'objectif. En tout cas, ça a jamais été l'objectif pour moi que les gens se sentent coupables. Mais tu vois que, en tout cas, le fait que moi j'ai changé, ça a amené des questionnements chez eux, de la remise en question, exactement. Et clairement des changements. Donc on a des familles, dans la famille personne n'est devenu du côté de ma femme il y a quelqu'un qui est devenu végétarien, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a plus de réflexion sur ces sujets là dans notre groupe d'amis. Pour le coup, on voit qu'il y a des gens, j'ai pas la prétention de dire que on les a inspirés, du coup cette fois avec Marine, mon associée qui fait partie du même groupe de potes que moi, sans dire qu'on les a inspirés, en tout cas je pense qu'ils nous ont rejoint un peu à leur rythme et qui du coup ont fortement réduit la viande, réfléchissent à voyager bas carbone aussi. Donc clairement, voilà, on voit qu'il y a des changements un peu de mentalité qui s'opèrent à des rythmes différents et c'est normal. Donc avant, on était un peu les deux pèlerins avec Marine, mon associée. Maintenant, on est un peu plus nombreux dans notre groupe de copains et ça fait du bien.
Ok, génial. Donc Marine, c'était une amie à toi. Mm-hmm. Vous vous êtes rencontrés où ?
On s'est rencontrés en école. Marine, elle a aussi bossé dans un cabinet de conseil pendant 5 ans où elle était spécialisée en logistique pour le coup. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, dans une grosse start-up de logistique e-commerce. Donc elle, c'est vraiment sa compétence et d'ailleurs c'est très utile pour ce qu'on fait chez Hommage. Et du coup c'est elle qui a plutôt été à l'impulsion du projet et elle est celle qui l'a ressenti le plus fort. Et donc elle me disait, voilà, il faut que j'arrête, il faut que je change de boulot. Et donc voilà, on discutait de ça, je me souviens, c'était pour ses 30 ans. Elle a dit oui, j'ai l'idée d'un truc, en fait j'aimerais bien montrer un truc, j'ai l'idée d'un truc sur la seconde main, est-ce que ça te dirait de réfléchir ensemble sur cette idée? Et j'ai dit oui. Et là, elle m'a sorti des slide, elle avait préparé, elle avait vachement réfléchi au truc.
Ok, c'était pas juste une idée.
Non, c'était pas juste une idée. Je pense que ça lui avait fait quelques petites nuits blanches avant. On a creusé le truc. Alors, c'était pas du tout dans la mode à la base. Son feeling à elle, c'était surtout son utilisation du bon coin qui lui avait fait dire, en fait, l'expérience, elle est pas top. top, donc il faudrait réinventer un Le Bon Coin avec plus de services, okay. Mais pas du tout spécialisé dans la mode, genre vraiment Le Bon Coin comme plateforme multicatégorie. Du coup, on a commencé à réfléchir, ouais, quel service tu pourrais faire, il faudrait ramener de la confiance dans le truc, il faudrait que ce soit beaucoup plus simple pour vendre, etc. Mais en fait, plein de trucs qui sont un peu des fondamentaux dommage aujourd'hui, sauf que c'était pas vraiment axé mode. Puis après, voilà, on avait une idée et on a voulu la soumettre à des gens. Donc on est là, on a utilisé des groupes Facebook, tu vois, que t'as souvent les gens ils se réunissent par géographie, donc les arrondissements de Paris ou de Marseille, les gens qui habitent dans telle ville ou telle ville. Tu rentres dans tous ces groupes et tu leur dis salut, j'ai un sondage sur vos habitudes en seconde main. Hop, tu balances. Donc on a eu plusieurs centaines de réponses. Et là, on s'est rendu compte que la mode, ça sortait du lot, mais vraiment, vraiment beaucoup, avec une conclusion assez marrante qui était. Parce qu'on demandait aux gens, citez-nous les plateformes de seconde main que vous connaissez, dites-nous celles que vous utilisez, et est-ce que vous les utilisez pour vendre et pourquoi, est-ce que vous les utilisez pour acheter et pourquoi. Et là, on s'est rendu compte que 100% des gens qu'on a interrogés connaissaient Vinted.
Okay.
Donc, alors que derrière, ça retombait vraiment, donc les autres plateformes, genre Vestiaire Collective ou autres,
ouais,
même quand tu, voilà, quand tu bosses dans la mode, tu peux citer 10 plateformes, là, il n'y a plus personne qui connaissait.
Donc vraiment que Vinted.
Ouais, que Vinted, et même si tu regardais d'autres verticales, genre Celency ou autres, pareil, il n'y avait pas grand monde qui, enfin, tu passais de 100% à 20% des gens qui connaissaient. Et en revanche, le truc intéressant, c'est que même si tout le monde connaissait, limite tout le monde avait un compte, il n'y avait que 20% des gens qui nous disaient qu'ils avaient déjà vendu leurs vêtements et moins de la moitié qui avaient déjà acheté un vêtement. Donc en fait, tout le monde connaissait, mais moins de la moitié des gens avaient déjà utilisé. Donc on s'est dit, ok, c'est marrant cet écart, pourquoi ? Là, on a commencé du coup à creuser les verbatim qu'on avait demandé, parce qu'on demandait à chaque fois aux gens pourquoi vous avez pu utiliser. Et là, on nous a cité exactement les points de friction que nous on avait identifiés. C'est long et pénible de vendre, machin, j'ai la flemme, j'ai pas l'énergie, j'ai pas confiance, je me suis fait arnaquer, machin. Enfin, en fait, tous les trucs possibles et imaginables qui peuvent arriver sur une plateforme comme Vinted. Et vraiment, je crache pas du tout sur Vinted. On s'est juste rendu compte qu'il y avait une frange de la population pour qui le service proposé par Vinted était pas adapté. Et là, on s'est dit, ok, ben go sur la mode, c'est pas vraiment notre spécialité. Enfin, voilà, on vient pas de là, j'ai pas travaillé dans une maison de mode avant, j'ai pas une formation en stylisme ou autre. Je suis pas spécialement fan de mode même. Je m'habille, de manière assez lambda, en achetant assez peu de vêtements et tout. Mais c'était plus une opportunité, là, en voyant que y avait un service super connu, qui est Vinted. Donc, ils avaient fait le boulot de démocratisation, d'évangélisation. Je pense que grâce à Vinted, la seconde main c'est devenu un peu moins un truc niche et un peu plus un truc mainstream où c'est ok de vendre ses vêtements et de se faire un peu d'argent, c'est ok d'acheter des vêtements de seconde main, c'est pas sale, c'est pas réservé aux classes les plus populaires ou autres. Donc je pense que ce boulot là qui est super dur, qui nécessite beaucoup d'argent, il a été fait par Vinted, mais en revanche le service il convient pas à toute une partie de la population. Et donc c'est là où nous on peut rentrer du coup avec une proposition différente, profiter de tout le boulot réalisation que Vinted et même Le Bon Coin avant avait fait, et arriver du coup avec une proposition de valeur un peu plus structurée avec des services à valeur ajoutée pour réussir à conquérir toute cette partie de la population qui s'y retrouve pas encore.
Ok, et du coup ça a été quoi la première étape? Vous avez tout de suite monté votre marketplace?
La première étape c'était de vérifier. Donc effectivement, par exemple, c'est une marketplace ce qu'on a, même si elle est un peu particulière dans le sens où les vendeurs et les acheteurs ils se parlent pas.
Vous êtes vraiment la transition entre les deux.
Ouais, donc on est aux US ils appellent ça des managed marketplace, donc ça veut dire que c'est nous qui gérons les flux de produits, mais au sens propre du terme, donc on les gère physiquement. Donc nous on gère le vendeur, on source des vendeurs, donc c'est essentiellement des vendeuses d'ailleurs, donc des personnes qui ont envie de vendre leurs vêtements, elles envoient tout chez nous, et nous on va créer tout leur vestiaire à leur place, et puis on pourra interagir avec elles si elles ont envie de faire des modifications, etc. Puis après on met en vente, mais un acheteur ou une acheteuse qui vient sur notre site, il sait pas le vêtement là, il est à Paul, il est à Stéphanie, il est à Marine, il n'en sait rien. Il sait juste qu'il achète des vêtements qui ont été vérifiés par Hommage, que s'il y a un problème, il peut dealer ça, enfin il gérera ça avec nous, et il sait que c'est nous qui avons aussi vérifié les produits, créé les fiches produits, fixé les prix. Donc normalement tout ça est fait de manière homogène, cohérente, et s'il y a des questions, c'est nous qui les gérons, ce qui permet du coup de le vendeur et Pénard, et l'acheteur il a cette relation avec le tiers de confiance qui est Hommage. Donc c'est une marketplace mais complètement intermédiaire. Après ça reste une dynamique où tu as besoin de sourcer à la fois des vendeurs, des acheteurs, c'est peut-être pas les mêmes personnes. Et pour lancer ton service, ben, il faut que tu commences quelque part. Et effectivement, tu es les deux pour que ça ressemble à quelque chose. Mais nous, on s'est demandé par quel bout le prendre. Et typiquement, là, c'était assez évident qu'il fallait d'abord des vendeurs pour qu'ensuite avoir des vêtements à vendre sur le site et là commencer à parler de ton truc en disant voilà, j'ai une super sélection de vêtements. Et là, on a réutilisé nos groupes Facebook classiques, alors en cherchant plutôt cette fois autour de là où on était, c'est-à-dire en région parisienne. Donc, on est allé poster sur les parents de Levallois, les mamans du 9e, machin. Et on a dit « Coucou, on cherche des gens qui ont des vêtements à vendre et qui ont ni le temps ni l'énergie de s'en occuper. Si oui, écrivez-nous en MP. » Erreur fatale.
Vous en avez reçu.
Ouais, on a reçu 250 MP dans la soirée. dans le compte, sur le compte personnel de Marine.
Ah, waouh.
Donc, horrible. Après, à posteriori, on s'est dit, on aurait dû créer un compte exprès pour le truc.
Ouais, avec, vous avez fait au plus vite.
Ouais, voilà, on a fait. Mais surtout, ouais, c'était intuitif. Ça, on n'a pas trop réfléchi. Et du coup, on faisait les collectes à domicile nous-mêmes. Donc, on est allé. Du coup, on est allé en vélo. Tu vois, avec des gros sacs à dos dans lesquels on mettait tous les vêtements et tout.
Non, mais c'est fou. Donc, vous étiez tous les deux en vélo. Vous aviez les sacs sur le dos et vous partiez comme ça.
Ouais, exactement.
Pas de voiture.
On allait. Non, rien. Rien, on n'a pas de voiture, on habite à Paris et du coup on est chez les gens. Du coup je me souviens, je fais des collectes dans des super appartements, dans le 7e. Et du coup tu rentres comme ça avec ton casque de vélo, t'es un peu chaud parce que ça en est en juillet.
Et
tu dis voilà, tu dis bonjour, on a cherché les vêtements et l'appartement est trop beau et tout. Et ils sont là, ah oui, voilà, je vous ai préparé le truc et là tu vois 50 chemises en soie, machin, trop stylé, t'es là, ok waouh, je vais mettre ça dans un gros sac à dos. Enfin bref, alors que c'était tout bien pendu. Je me souviens, bon bref, c'était assez cool de voir de pouvoir échanger avec ces personnes-là. On n'a pas fait les collectes à domicile hyper longtemps. Après, on a rapidement basculé sur un mode où les gens, ils nous commandaient une étiquette Mondial Relais qu'on leur envoyait par mail et ils envoyaient des colis, ce qui nous permettait, nous, d'aller les récupérer à notre rythme et
oui, bien sûr,
en vélo ou pas, mais voilà.
Okay.
Et on stockait tout ça dans un garde-meuble parce que c'était l'option la plus flexible et la moins chère qu'on avait trouvée pour louer de l'espace. Si tu veux louer un entrepôt, à part si t'as un bon plan, ce qui est notre cas aujourd'hui, par exemple, dans notre entrepôt à Saint-Ouen, bah sinon, si tu cherches un local, tout le monde va dire ouais, pas de problème, bail 3, 6, 9, 6 mois de caution, machin. Et toi, tu dis bah non, je.
Tu viens de commencer, c'est absolument pas possible.
Voilà, exactement, je viens de commencer. Mon appart, il déborde de carton, faut que je trouve une solution. et du coup, on avait stocké ça dans un garde-meuble. Commencer à prendre des photos qui étaient, quand tu regardes maintenant, tu te dis ok, mais immonde, trop mal éclairé, pas du tout mis en valeur les vêtements, etc. Donc on avait validé le concept. Ok, il y a des gens, ils ont des vêtements à vendre, ils veulent pas s'en occuper, jamais ils touchent ces personnes-là. Soit on avait en grande majorité des gens qui étaient en mode non, mais jamais d'habits, je prends le temps de faire un truc sur Vinted. Enfin, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Je me dis ok, très bien. Ou alors des gens qui ont dit ah, j'ai essayé, horrible, je me suis harcelé, machin. Enfin, plein d'histoires horribles aussi. On était là, ok, bon, on comprend mieux le type de persona à qui on a affaire. Et après, du coup, on a créé, bon, on n'a pas de compétences techniques, pas développeur avec Marine, donc on a créé des trucs en no code. Et ça, c'est l'avantage de monter une boîte en 2021 plutôt qu'en 2010. On a pu créer deux sites séparés parce qu'on savait pas le faire en un site. Un site pour les vendeurs, très simple, avec nos règles, les critères d'acceptation qu'on avait chez Hommage, et puis un petit formulaire de contact, et voilà. Et à côté, une boutique en ligne, donc sur Shopify, ce qui est du coup une manière super simple. En une ou deux semaines, tu peux monter une boutique qui ressemble à quelque chose, avec zéro expérience, ce qui est notre cas. Et voilà, au milieu de l'été, on met en ligne la boutique. Évidemment, bon, bah, tu mets en ligne la boutique, il se passe rien. Enfin, personne te connaît. Voilà. Personne
toi,
te connaît.
Ouais, voilà.
Tu te dis, genre, tu sais, t'as peut-être entendu des podcasts ou je sais pas quoi, ou lu des trucs de gens qui disent, ouais, j'ai mis la boutique en ligne, et là, bam, des commandes et tout. Non, en vrai, il se passe rien.
C'est hyper rare. Voilà. Je me rappelle que quand j'ai monté mon premier site, c'est vrai que t'espères au fond de toi que lorsque tu vas cliquer sur mise en ligne, 5 minutes plus tard, tu vas avoir au moins 15 commandes. Mais ça
voilà. Ah non, ça passe pas du tout comme ça. Donc, nous, on a mis en ligne, et après, je me souviens, il a dû se passer une journée ou deux. Tu te dis, bon.
Comment je fais?
Qu'est-ce que je fais? Donc, sur Instagram, ok, je poste des trucs. Machin. Bon, après voilà, il y a eu quelques commandes. Il y a des gens qui nous envoient leurs vêtements, ils nous font confiance. Les points de friction qu'on a identifiés, ils sont vraiment là. Et on a mis en ligne un site qui est acceptable. Il y a quelques personnes qui ont passé commande. Allez, ça marche. Du coup, on lance le truc officiellement. Et donc, on a profité du mois d'août pour essayer de faire un peu de bruit sur Instagram. Toute proportion gardée, hein, quand tu commences. Et après, lancer le truc en septembre 2021. Et voilà. Et donc là, il fallait. Et là, on s'est dit, ok, on va pas continuer à faire les nouches pendant longtemps dans un garde-meuble avec à deux, passer des journées dans le noir avec des lampes frontales, à prendre des trucs en photo. Enfin voilà, c'est, tu te dis, ok, faut qu'on devienne un peu sérieux. Donc, il fallait lever un peu d'argent. Et on a commencé à faire des premiers recrutements. Et voilà, c'était parti.
Donc, vous avez levé ?
Donc, on a levé à ce moment-là un format assez classique de Love Money. Donc, on allait voir nos copains, les gens de notre famille, des amis. Voilà l'avantage de, encore une fois, de monter une boîte, cette fois plutôt quand on a 30 ans plutôt que quand on a 20 ans, parce qu'on a des copains qui ont un peu de sous et qui sont prêts à nous faire confiance. Donc, ça nous a aidé à faire un premier recrutement, une styliste, parce que pas bête, on s'est dit, nous, on n'y connaît rien.
D'ailleurs,
il faut trouver quelqu'un qui s'y connaît un peu. Elle est arrivée, elle a dit, les photos, c'est n'importe quoi, il faut tout refaire et tout. Bon, elle avait raison. Et voilà, donc tant mieux, on s'était pas trompé là-dessus. Elle est toujours avec nous d'ailleurs, Manon. C'est notre directrice artistique.
Ok. Et comment vous avez fait pour vous faire connaître ? Parce que donc, du coup, tu as cette styliste qui est arrivée, qui a dit les photos, c'est pas bien. Vous aviez commencé à faire un peu de communication sur Instagram.
Oui.
Mais à quel moment vous avez réussi à faire de cette communication un vecteur de rentabilité ?
En fait, je dirais que tout ça a pris pas mal de temps. Il n'y a pas eu d'élément qui nous a fait exploser. On a vu à chaque fois des petits sursauts régulièrement, mais il n'y a pas un truc où d'un coup, la machine s'est emballée, etc. Donc au début, on était très focalisés, nous, sur... faire grossir notre inventaire. Donc on avait, grâce aux vêtements qu'on avait récupérés au début, en plus on faisait une commission réduite, donc on gagnait pratiquement rien sur les vêtements qu'on vendait, et on avait réussi à récupérer peut-être 1000 pièces, et du coup on s'était dit, il faut qu'on arrive vite à 5000 pour que, en fait 1000, pour peu que t'arrives, tu mets ta taille, le type de pièce que tu cherches, peut-être tu commences à cocher les marques que t'aimes bien, et d'un coup il n'y a plus rien. Du coup tu te dis, bah oui, en fait 1000 pièces, tu peux pas croiser beaucoup de critères, quoi. Donc il faut vite qu'on arrive, je sais pas, on s'était mis 5000 comme objectif. Donc tous nos efforts, ils étaient focalisés là-dessus. Donc on renvoyait régulièrement des messages sur les groupes Facebook, en question, etc. Donc tout était un peu focus là-dessus. On a eu un peu d'aide d'une influenceuse mode qui s'appelle Valérie Trib. Je vais dans son podcast, alors que ça faisait un mois qu'on existait, elle nous a fait de la pub, enfin tout ça, ça nous a vraiment aidé. C'était peut-être le plus gros coup d'accélérateur qu'on ait eu au final de l'histoire, parce qu'on est passé de rien à quelque chose, et quelque chose d'un peu visible. Donc ça c'était cool. Et puis après, bon, ben, le travail de notoriété, il est venu petit à petit. Quand t'es entrepreneur ou entrepreneuse, tu trouves ça toujours hyper lent. Donc tu te dis, oh, putain, je suis à 2500 followers, comment je fais pour arriver à 10 000 la semaine prochaine? Et en fait, ça prend 6 mois. Et tu te dis, voilà, tout prend plus longtemps que ce que tu penses. Et en plus, ça nécessite des vraies compétences, etc., qu'on n'avait pas nécessairement. Mais voilà, on a appris. En fait, rapidement, on a commencé, enfin, comme on avait levé cet argent, puis il y avait d'autres business angels qui étaient rentrés dans l'histoire. Donc on a pu recruter une équipe un peu plus musclée, avec du coup 3 personnes de plus, un CTO, quelqu'un en growth marketing pour commencer à faire un peu de pub, un peu de pour nous aider à grossir là-dessus, et une personne aux opérations pour aider Marine à structurer un peu tous nos processus. Donc voilà, 3 personnes qui sont encore et toujours chez nous. Petit à petit, du travail de fond qui paye, de la notoriété qui augmente. Et puis là, bon, on est 2 ans et demi après, la communauté, elle fait 150 000 personnes, on a 1200 avis sur Trustpilot, on a reçu 110 000 vêtements maintenant.
Enfin, c'est énorme.
Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, forcément, on est 25 personnes dans l'équipe, 10 personnes sur des rôles siège, entre guillemets, donc marketing, opération, tech, 15 personnes qui sont au studio photo et à l'entrepôt. Là, t'es dans une boîte qui a une dimension un peu différente. Donc forcément, on a des ambitions qui sont aussi beaucoup plus grandes, même à court terme, que ce qu'on avait il y a 2 ans et demi. Donc maintenant, oui, on a des retombées presse, on est un peu plus exigeant sur ce qu'on veut côté com, etc. Donc on a grandi aussi, quoi.
Justement, ça c'est intéressant. Quand vous avez lancé Hommage, c'était quoi votre ambition? Vous imaginiez quoi?
Je crois qu'il y a un truc où les Américains, ils disent go big ou go home, quoi. Donc on était un peu dans cette logique-là, en disant, nous, on veut avoir de l'impact. On fait ça pour avoir de l'impact sur... l'environnement, impact positif. On a beaucoup d'admiration pour les petites boîtes et les petits comptes de mode de seconde main qui font ça hyper bien, qui font de la curation, qui vont chiner des pièces, qui ont du coup, tu vois, 150-200 pièces à vendre, c'est hyper beau, c'est hyper léché, la com elle est top, souvent ça se passe hyper bien sur les réseaux et tout, mais en fait c'est un petit business et c'est génial, et nous on se sentirait pas du tout capable de faire ça, notamment parce que la partie curation elle nécessite un œil et des compétences que nous on n'a pas, En revanche, c'est pas très scalable, c'est-à-dire que ça peut pas devenir énorme et du coup ça peut pas avoir un impact énorme sur si je schématise le bilan carbone de l'industrie de la mode. Et nous, c'est ça qu'on veut avoir depuis le début. Un gros impact sur l'industrie en remplaçant des achats en neuf par des achats en seconde main chez des clients et des clientes qui n'y auraient pas pensé si on n'était pas là. Donc ça, c'est vraiment l'ambition qu'on a. Et donc, de fait, on vise assez haut et loin depuis le début. En revanche, on avait conscience de partir de très loin. Donc, c'est plutôt nos ambitions à court terme qui étaient mesurées. Et, mais l'objectif, ça a toujours été de créer quelque chose de gros et du coup qui a de l'importance et qui, du coup, nous permet d'avoir un vrai impact.
Ok, génial. C'est une vraie mission de vie.
Ouais.
Et aujourd'hui, vous faites combien de commandes ?
Peut-être autour de... 400 commandes semaine, voilà, j'allais dire, ouais, c'est ça, 1500 commandes mois. Ça bouge pas mal parce que entre aujourd'hui et il y a un an, le business a été multiplié par 3. Donc, j'espère que ce que je te dis, ça sera périmé dès la semaine prochaine.
Mais
et mars, le mois de mars s'est bien passé, donc c'est cool après une petite période de stagnation parce que quand tu sors de Noël, etc., où ça a été hyper dense, janvier, c'est les soldes et la seconde main, ça fait pas super bon ménage. On se débrouille pas trop mal parce qu'on a une opération qui s'appelle les soldes libres ou inspirée de WeDressFair qui sont nos copains. Là, on s'en sort, mais c'est pas non plus un temps hyper fort. Les clients qui ont l'habitude d'acheter en neuf, bah là, ils se disent attends, j'ai moins 50 chez Sandro ou moins 50 chez Hommage sur des pièces Sandro, je vais aller acheter le neuf. Oui. Sauf s'ils ont vraiment des convictions hyper ancrées, mais c'est pas le cas pour tout le monde et c'est ok. Hein. Donc voilà, c'est des moments un peu plus durs pour nous. Février, c'est un point creux, il se passe pas grand chose. Mais là, ça va, on est content. Le Q4, donc le dernier trimestre de 2023, a été très bon. Et on termine le premier trimestre assez fort, avec du coup des meilleurs chiffres qu'au trimestre au dernier trimestre 2023, alors que normalement Noël c'est censé être la plus grosse période, donc ça veut dire qu'on progresse bien. Sur une lame de fond qui est à la hausse, hein, c'est sûr, la seconde main, ça progresse. Il n'y a que deux sous-segments de la mode qui progressent, c'est la fast fashion, et en particulier l'ultra fast fashion, et la seconde main. Donc bon, c'est un peu le...
paradoxal.
Voilà, c'est assez paradoxal. En tout cas, les gens... c'est paradoxal, ce qui les rassemble, c'est les prix bas.
C'est ce que j'ai demandé, ouais.
Mais après, tout le reste les éloigne. Ultra fast fashion, ça va être les prix bas, mais du coup, c'est du neuf, donc ça veut dire que ça cache de la casse sociale, des dégâts environnementaux, des incitations à consommer qui sont hyper importantes, une durabilité physique et émotionnelle des vêtements qui est... nul. Et du coup, t'opposes ça à la seconde main, et je mets la seconde main au sens large du terme, vintage aussi, avec du coup des boîtes qui essayent de te proposer, comme nous on le fait, une approche un peu plus consciente de la consommation, un bilan carbone bien moindre parce que les vêtements ont déjà été produits. Ça rentre dans une logique de prolonger la vie des vêtements le plus longtemps possible. Ça te fait réfléchir aussi à comment tu peux participer à ce qui est davantage de circularité dans la mode. Donc voilà, ces deux bouts du marché qui évoluent à peu près dans le même sens en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont à la hausse mais qui n'ont pas vraiment les mêmes valeurs.
Et son client aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à la recherche de bons prix ou quelqu'un qui est à la recherche d'abord d'un modèle écologique qui soit justement plus sain?
J'ai 3 clients types qui sont du coup des clientes, parce que 90% de notre business, c'est des femmes.
Ok.
Ouais, ça c'est un truc. J'ai d'ailleurs fait un post LinkedIn hier à ce propos en disant mais où sont les hommes en seconde main?
Comment t'expliques ça? C'est fou.
J'ai que des théories, mais pas de certitudes. Okay. Et les théories, tu peux les creuser assez loin. Et du coup, j'ai eu des débats assez intéressants du coup suite à mon post hier sur la question. Ma théorie, c'est que les hommes, ils consomment différemment la mode. D'abord en neuf, et du coup, ça a des conséquences sur la seconde main. Ce que j'ai observé, et encore une fois, c'est que ce que j'ai observé, et du coup, c'est pas des certitudes, c'est juste des théories, c'est que les hommes, ils achètent moins de vêtements. Ils payent peut-être un peu plus cher les pièces qu'ils achètent. Ils vont acheter moins de marques différentes, être assez fidèles à quelques marques dans lesquelles ils savent que ça taille bien. Ils sont souvent aidés, généralement par une femme, donc ça peut être une pote, ça peut être sa copine ou sa sœur ou autre. Ils sont souvent aidés dans leur choix, ou même juste la vendeuse. Hein. Mais donc en gros, il y a vraiment une manière un peu différente de consommer les vêtements. Et puis donc ça, c'est à l'achat. Donc déjà, il y a moins de volume. Et ensuite, dans l'utilisation, ce qu'on observe, c'est que les vêtements, en gros, la plupart des hommes usent leurs vêtements jusqu'à la corde.
Ah ouais, ok.
Et du coup, après, il n'y a plus grand chose à vendre. ou alors, tu récupères des trucs à vendre, mais pour le coup, qui sont complètement démodés. Je pense que la mode masculine, elle évolue un peu moins vite, mais elle évolue quand même. Et donc, du coup, je sais pas, je te donne un exemple. Une époque où tout le monde mettait des polos à Abercrombie, 2010. Et après, là, tu te retrouves avec des flopés de polos à Abercrombie qui sont mis sur le marché. Et tout, personne n'en veut, et
ouais, bon, que, bah, tu voilà,
que tu vendras pas. Donc tout ça, ça fait que in fine, en bout de chaîne, bah, t'as moins de vêtements au début, une manière de les consommer différente, une manière de les utiliser différente, ce qui fait que bah, t'as beaucoup moins de volume, je trouve. Et après, du coup, tu peux t'interroger un peu sur bah, pourquoi en fait il y a ce rapport différent entre aux vêtements, entre les hommes et les femmes, et donc tu peux t'interroger sur l'image que projette la société sur les femmes, pas des notions un peu à l'ancienne, comme quoi il faut jamais s'habiller pareil, tout le temps changer de tenue, être apprêté, machin, etc. Et t'as pas ce genre de contraintes sur les hommes, tu peux t'habiller en bleu, en blanc, en jean, et puis voilà, c'est tout, personne te fera jamais de remarques, les costumes c'est tous les mêmes, machin, enfin voilà. Il y a quand même un truc différent dans la manière de s'exprimer au travers du vêtement, je trouve, et qui sont probablement hérités de, voilà, de, par construction de la société, et c'est pas ouf. Mais voilà, donc ça c'est ma théorie. Je dis pas que c'est la seule ou la vraie, mais en tout cas je pense que c'est pour ça que l'homme c'est plus dur à craquer. Et nous en plus, du coup, on s'est mis à plus féminiser le discours, les visuels et tout, parce que ben
à 90%,
ouais. Donc tu te mets même à dire les clientes, quoi.
Ouais,
et,
bah oui.
Ou alors de dire voilà une petite sélection de vêtements qu'on a reçus la semaine dernière, et là j'ai mes potes qui m'envoient des captures d'écran en disant bah je me sens pas très concerné, quoi, par les robes.
Tu parles à ta cible, tu parles à tes...
Voilà, exactement. Donc après il faut qu'on soit meilleur nous dans la segmentation, etc. Mais l'homme, c'est pas un truc sur lequel on a craqué le truc, et ma théorie c'est que c'est plus dur. Voilà, c'est okay. Que c'est plus dur. Donc on verra si ça change. Et du coup j'ai des témoignages d'hommes assez intéressants, plein qui m'ont dit bah ouais moi en fait j'aime pas acheter des vêtements, c'est ma copine qui m'emmène, on choisit les trucs ensemble. Je les utilise jusqu'à ce qu'elles m'interdisent de les porter, elles peuvent tellement s'amuser,
oh, wow,
et voilà.
Okay.
Et tu me dis, ah ok, bon bah voilà. Et d'autres qui disent, bah moi je m'en fripe, j'ai besoin d'essayer. Voilà, ce qui peut se comprendre. Et je pense que, bah en tout cas, notre clientèle, majoritairement féminine, elle a une manière différente d'acheter.
Ok. Et alors, tu parlais de collections. Justement, on est dans une mode qui va extrêmement vite. On a des collections, ouais, qui sont beaucoup trop nombreuses en une année.
Oui.
Est-ce que vous, il y a des pièces que vous refusez ?
Jean Shein, ça coûte 12 euros en moyenne, entre 10 et 15, donc disons 12. Il y en a tellement que, en fait, si tu regardes sur Vinted, par exemple, un Jean Shein, ça va se vendre 3-4 euros.
C'est ça, donc toi, en fait, tu peux même pas marger dessus.
Non, impossible. Même si on prenait 100% de commission et qu'on disait au vendeur, en fait, je te rends un service qui est de te débarrasser de ce jean, mais tu peux pas toucher d'argent. Voilà, même en faisant 100% de commission, nous, on gagne pas d'argent sur un truc comme ça. Tu dois faire... T'as des équipes en France, des locaux en France, avec des gens qui font un contrôle qualité, une prise de photo, un détourage, machin. T'as une post-prod un peu sur le visuel, une fiche produit assez clean, un stockage, de la pub pour faire... En fait, tu peux pas payer tout ça sur un jean qui est vendu 3 euros. Donc, nous, on refuse ces marques-là. Et en fait, on a décidé de tirer un trait entre H&M et Zara. Donc, des os H&M. En fait, on a souvent la remarque... Ouais, il y a de la fast fashion sur votre site, il y a Zara, etc. En fait, il y a un moment où il fallait mettre une limite. Il se trouve que Zara, pour contrer Shein, a un peu premiumisé son offre. Donc c'est un peu plus cher. Ils ont des matières un peu meilleures. Ils commencent à réinjecter des vêtements qui sont faits en Turquie ou au Portugal, etc. Donc il y a des mix matières qui sont un peu meilleurs aussi. Il y a des plus grosses pièces, type des manteaux, etc., qui ont des qu'on va trouver à 80 euros, 100 euros, 120 euros. Donc en fait ça a vraiment une valeur intrinsèque en seconde main. Et donc du coup la ligne, on l'a tracée là. Et aussi c'était... On se repose souvent ces questions, mais c'est aussi la réalité du vestiaire de nos clientes. Donc même les clientes qui ont un super vestiaire, Sandro, Maje, Claudie Pirlo, Cézanne, machin, elles ont toujours 10% de Zara.
Ok.
Parce que, je sais pas, je pense que Zara, ils sont forts en style.
T'as des pièces extrêmement simples aussi, donc finalement...
Ouais. Ça fait partie un peu des basiques d'une garde-robe. Et même si... et même chez des filles, même des influenceuses ou autres, tu vois, elles ont des vêtements Paul and Joe, machin, ouais. Blablabla. En fait, elles ont des jeans Zara et des shorts Zara. Et les gens, ils se enfin, il y a le denim chez Zara qui est un peu un truc, tu connais toutes les femmes, j'ai l'impression, connaissent leur taille chez Zara. C'est des marqueurs, des points de repère, disons, pour certaines personnes. Bon, bah, nous, on a dit, OK, on accepte. Et sur, est-ce que ça veut dire qu'on cautionne ce que fait Zara d'un point de vue social et environnemental? Pas du tout, mais de la même manière qu'on cautionne pas ce que font plein de marques premium, voire affordable luxury, qui font bosser les Ouïghours, qui ont tout autant de matières synthétiques, qui font tout autant produire à l'autre bout du monde, c'est juste qu'elles margent beaucoup mieux parce qu'elles sont capables de pricer beaucoup plus haut. Donc en soi, si on devait limiter notre offre au marketing, on vendrait plus grand chose. Le fait que ce soit de la seconde main, c'est ça qui rend l'achat décarboné. Et après, ce qu'a fait la marque en neuf, bah ça c'est une autre problématique, mais il y en a pas beaucoup qui font les choses bien.
Et qu'est-ce que tu penses d'un H&M qui nous fait des collections green?
Bah je pense que c'est H&M qui fait des collections greenwashing. Nous en fait on n'est pas des méga experts du neuf, mais on fait partie d'un collectif qui s'appelle En Mode Climat, qui a été fondé par des acteurs emblématiques de la mode responsable, donc notamment Loom. Loom 1083, qui est une marque de jean assez connue. Il y a les tissages de Charlieu, qui du coup qui est un des acteurs industriels donc du tissage qui reste en France et qui est dans une dynamique positive, qui est en train de réindustrialiser un peu ce bassin voilà, où on avait une grosse main d'œuvre textile dans les années 70 avant que tout parte en vrille, enfin tout parte à l'étranger en tout cas. Et donc voilà, ces acteurs là ils ont créé une coalition d'acteurs de la mode qui souhaitent qu'il y ait davantage de régulation, donc en gros le secteur, en gros c'est des marques de mode, et je schématise, des acteurs de la mode qui demandent qu'il y ait plus de lois pour encadrer les pratiques dans la mode, parce que grosso modo le secteur s'est mis à faire un peu n'importe quoi. Et en fait nous on est membres de ce collectif là pour le soutenir, et du coup on a beaucoup de contacts avec des acteurs de la mode responsable qui eux connaissent le truc en long, en large et en travers. Et bah, typiquement, ça va être eux qui vont dénoncer les campagnes de greenwashing, et c'est eux qui nous ont appris beaucoup de choses sur ce que c'est, ce que ça implique, et du coup ce que ça coûte de fabriquer des vêtements de manière responsable. Donc en termes de matières premières, en termes de lieux de production et de fabrication, en termes de bilan carbone aussi, genre où se situent les émissions dans la fabrication d'un vêtement. Tout de suite les gens se disent, ah, je fais produire tes vêtements au Bangladesh, le transport, machin. En fait le transport c'est ridicule, le problème c'est surtout la phase de production du vêtement, donc la matière première, puis ensuite les grosses machines que tu utilises pour transformer cette matière première, qui du coup, si tu veux faire ça en Asie, bon bah c'est beaucoup de pays qui carburent en termes de mix énergétique au charbon, au gaz, donc ces grosses machines qui consomment à fond d'électricité, bah c'est de l'électricité carbonée, donc l'essentiel du bilan carbone il est là, et aussi le reste du bilan environnemental désastreux, il est dans les cultures, donc tu vois avoir du coton conventionnel qui utilise des quantités d'eau astronomiques, qui assèche des régions entières du monde, comme l'Ouzbékistan par exemple. Tout ça, c'est évidemment, ça s'accompagne de casses sociales plus, donc des gens qui sont un peu exploités, parfois des enfants, les Ouïghours, on en a parlé. Dans les usines, t'as des conditions de travail déplorables. Les vêtements, c'est beaucoup confectionné à la main, c'est super dur d'usiner, enfin de faire avec des machines complètes. Un t-shirt par exemple, c'est impossible, t'es obligé de le faire à la main, donc c'est des gens qui bossent jour et nuit, ils sont payés de misère, etc. Donc voilà, tous ces acteurs là de la coalition nous ont vachement ouvert les yeux sur ces trucs là, donc bien sûr que eux portent un regard super critique sur les marques de fast fashion qui se saisissent du sujet environnemental, parce qu'en vrai c'est du greenwashing. Le problème avec cette industrie, c'est les volumes, c'est pas est-ce que ton polyester il est recyclé ou pas, c'est pas remplacer ton sac plastique par un sac en papier quand voilà, tout ça c'est l'épaisseur du trait. La vraie problématique de ces géants de la fast fashion, c'est la quantité de vêtements qu'ils produisent, et que en fait ils ont réussi, parce que c'est des génies du marketing, en 25 ans à mettre dans la tête des gens qu'il fallait renouveler sa garde-robe tous les 3 mois plutôt que tous les 3 ans, et c'est ça qui cause tous les problèmes environnementaux du secteur, pas est-ce que le polyester est recyclé ou pas, ou est-ce que le sac il est en plastique ou en papier.
Ok, donc finalement on se trompe un peu de problème.
En tout cas, on a un mirage là sur le côté sur la solution, c'est-à-dire qui est entretenu par ces acteurs-là en disant, ok, on a compris, il y a un problème dans le secteur, donc on va travailler sur le bilan carbone de chaque habit en le réduisant. Genre, typiquement, on va utiliser des matières recyclées ou autres. Et on va agir sur des postes de dépenses secondaires, donc la consommation électrique de nos magasins, le fuel qui est mis dans les bateaux qui se transportent nos vêtements. Mais en fait, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le nombre de vêtements que tu produis. Et si tu réduis le bilan carbone de chaque vêtement, mais que tu multiplies la production par 3, bah en fait, tout le monde a perdu, quoi. Ah, parce que ce qui compte, c'est la somme totale des émissions et des pollutions, et pas le bilan par vêtement.
Et par rapport à ça, est-ce que vous essayez d'évangéliser un petit peu votre communauté ?
Ouais, nous, on fait. Ce que je te disais, c'est que nous, on vient pas vraiment de la mode, donc on n'a pas les codes non plus avec mon associé. C'est pas naturel pour nous de parler de tendances, de trucs. Enfin, tu vois, on n'a pas de références, de créateurs. On n'a pas une culture mode hyper poussée. Et donc, du coup, naturellement, ce qui vient nous de nos tripes, c'est l'environnement, quoi. Donc, l'impact environnemental, la sensibilité que nous on a vis-à-vis de ces problématiques, la solution qu'on essaye d'apporter. Et naturellement, notre communication, elle est plutôt axée là-dessus. Alors, il se trouve qu'on a recruté des personnes qui viennent de la mode pour avoir quand même, on vend des fringues. Donc, il y a un moment, il faut réussir à donner envie aussi. Mais naturellement, on aura quand même plus tendance dans notre communication et nos prises de parole de ramener le débat sur les questions environnementales et sur les bienfaits de la seconde main de ce point de vue-là, parce que c'est ça, nous, notre corps sensible en tant que fondateur d'Hommage. Et donc oui, on fait de la sensibilisation. Au début même, tous les posts Instagram, quand c'est moi qui faisais tous les posts Instagram à l'époque, ça parlait limite que de ça, parce que c'était ça notre combat, quoi. Alors maintenant, c'est un peu plus mesuré, on a des gens qui savent ce qu'ils font. On essaye toujours d'injecter de la pédagogie et du contenu qui sensibilise sur ces questions-là.
Mais je trouve que vous avez fait un parfait mix entre les deux, parce que quand on va sur votre plateforme, ça saute pas aux yeux que vous êtes une entreprise green, dans le sens où même si c'est écrit partout, c'est super moderne, c'est implicite. Donc on a vraiment ce mélange, je trouve, entre la mode et justement la partie extrêmement écologique de votre business model.
Bon, ça fait plaisir, parce que c'est un travail de tous les jours, et je pense que c'est un équilibre qui est difficile à trouver. On n'a pas envie d'être moralisateur. On a fait un travail d'ailleurs sur le ton qu'on voulait utiliser, le discours, et justement on voulait essayer d'informer les gens au maximum et les accompagner dans le changement, mais de manière positive, donc pas en étant moralisateur et surtout pas culpabilisant, etc. Ouais. Donc on peut remercier Mathilde et Manon de notre équipe qui font un très bon boulot, quoi.
Ok. Et sur Hommage, alors, quelles pièces on peut retrouver ? Est-ce qu'on peut retrouver des pièces, on va dire, avec une moyenne de prix qui est accessible à tout le monde, ou est-ce que tu vas aussi avoir une partie luxe où on va retrouver des grandes marques ?
Alors, le prix moyen chez nous d'un article quand il est mis en vente, c'est 30 euros. 30 euros en seconde main, ça veut dire que la pièce, elle coûtait entre 60 et 100 euros en neuf. Donc, c'est plutôt, en termes de marque, ça va être le cœur de gamme chez nous, Cézanne, Lévis, Sandro, Hommage, Claudie Pierlot, avec un peu à la marge des marques un peu plus designer, APC, Hero, etc. Et aussi une petite base de vêtements plus accessibles, Another Stories, Zara, etc. Et là, vraiment, tu as 99% de ce que tu retrouves sur le site. Le luxe, c'est pas trop notre. Enfin, le luxe au sens créateur, pièces à plus de 200 euros en seconde main, ce qui veut dire des pièces à plus de 500 euros en neuf. Ça, c'est pas trop le cœur de gamme chez nous. Ça nécessite en plus des compétences qu'on n'a pas sur l'authentification.
C'est ça.
Et en fait, tout le monde. Alors, il y a besoin d'avoir un œil quand même sur la contrefaçon dans notre métier, notamment sur les grandes marques internationales. Levi's, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Burberry. Ça, c'est des trucs où les gens sont formés chez nous pour voir un Levi's, machin, faut que tu regardes les coutures, le truc, machin. Ça, on le fait et c'est important. Mais en revanche, tu vois, les marques sont très peu contrefaites, les petites marques, etc. Bah, il n'y a personne qui va vérifier que c'est un vrai de cette marque, parce que même la personne qui l'achète, ça ne l'intéresse pas spécialement que l'on vérifie. Dès qu'on commence à rentrer sur des pièces qui sont signées, le montant est plus important, la compétence de vérification, elle est assez clé. Et donc pour ça, nous, on va vendre en tant que vendeur pro sur Vestiaire Collectif. Et Vestiaire, ils ont un service d'authentification que tu peux payer si jamais du coup la personne a envie que la pièce soit authentifiée. Nous, c'est pas vraiment nos compétences, donc ça, c'est un peu un truc à part, un monde à part sur lequel on joue pas. Et en revanche, on se démarque quand même de l'autre côté d'un Vinted où aujourd'hui, le prix moyen sur Vinted, c'est 12-15 euros. Première marque sur la plateforme H&M, deuxième Shein, troisième Nike et quatrième Zara. Enfin, en gros, voilà. Et bon, Nike, c'est OK chez nous, mais on ne croule pas sous les vêtements Nike. Mais toutes les autres, c'est des vêtements qui sont refusés sur notre plateforme. Donc, on est un peu sur un positionnement intermédiaire et c'est volontaire. On est très content de ce positionnement-là. Ça reste accessible, 30 euros pour une pièce de marque certifiée impeccable.
C'est clair.
Enfin, c'est mon avis.
Mmh, voilà. Je suis d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, si moi je décide de vendre sur Hommage, comment ça se passe? Je crée mon compte et ensuite je fais quoi?
Ensuite, tu remplis un formulaire très rapide sur le site où on va te demander en gros combien de vêtements hommes et femmes tu nous envoies. Ça va nous aider à déterminer le poids du colis et donc à t'envoyer une étiquette de transport adaptée pour éviter qu'il se fasse refuser. Et puis après, globalement, c'est tout. Hein. Ça, c'est hyper simple comme processus. Tu reçois une étiquette de transport par mail, t'as plus qu'à nous envoyer le colis. En ce moment, on est un peu submergé par les demandes, donc ça arrive régulièrement qu'on ferme le robinet, genre c'est plus possible de déposer. On te dit voilà, en ce moment il y a un peu trop de colis et on te propose soit d'attendre et d'être notifié quand ça réouvre, soit tu peux réaliser des petites missions pour gagner un coup de fil. Donc ça, c'est en gros, ça va nous aider nous à gagner en notoriété. Donc on va te demander de venir taguer trois copines sur un post Insta Hommage, et puis comme ça nous, ça nous permet de gagner en visibilité, de faire découvrir Hommage à d'autres personnes, et toi tu gagnes un coup de fil, comme ça on prend quand même ton colis, et c'est donnant-donnant, quoi.
Ouais, c'est une super bonne façon de travailler avec ta communauté.
Voilà, c'est comme ça que... Donc ça, on a lancé ça depuis 2 semaines à peu près, donc...
Ok, tout nouveau.
Ouais, tout nouveau. Et ça marche bien.
Super. Donc là, c'est quoi les perspectives d'évolution pour Hommage?
Deux chantiers principaux cette année. Il y a un premier chantier qui est vraiment un chantier de notoriété, donc on considère que dans un marché bouillonnant, il se passe beaucoup de choses sur la seconde main, et ben en fait pour l'instant on n'a pas réussi à émerger suffisamment. Il y a Vinted qui prend beaucoup de place, hein, c'est 50-60% du marché, ils ont des gros moyens, et d'un autre côté t'as après une myriade d'acteurs plus petits avec tous des positionnements et des propositions de valeur différentes. Ils sont très cool et nous, notre but, c'est d'essayer d'émerger quoi là-dedans, de faire entendre notre voix, montrer nos points de différenciation, et du coup ça passe par un gros travail sur les relations presse, la communication organique et la communauté. Donc ça, c'est voilà, nos équipes, elles sont très focalisées là-dessus côté market. Et après, on a d'autres chantiers qui sont plutôt opérationnels et techniques. Donc là, la logistique chez nous, c'est un gros bout de ce qu'on fait, et on a besoin d'être super performant, surtout quand on grossit. Faut surtout que on réussisse à rester performant dans la durée en faisant x2, x3, x10 sur la quantité de vêtements en stock. Et donc là-dessus, ça, c'est des chantiers c'est des chantiers qui sont menés par mon associé Marine. Donc t'as les process qui doivent être hyper cadrés, hyper musclés, t'as les outils qui sont tous développés maison chez Hommage, et qui nous aident à être performants, enfin qui aident nos équipes à être performants au quotidien. Et après t'as des briques purement technologiques, donc on intègre un peu d'intelligence artificielle pour nous aider à créer et embellir nos fiches produits. T'as des algorithmes de fixation du prix qui doivent être constamment retravaillés pour être certain qu'on fixe le bon prix. Parce qu'en soi, c'est ça qui est dur dans notre métier, c'est qu'on déçoit deux personnes. On déçoit un vendeur qui veut acheter, qui veut vendre le plus cher possible, et on déçoit un acheteur qui a envie d'acheter le moins cher possible. Donc le but, c'est de les décevoir le moins possible et que tout le monde réussisse à y trouver son compte. Donc il faut être bon là-dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de travail sur cette partie opérationnelle et technique. Et en vrai, il y a du travail pour des années, quoi.
Mais c'est trop bien, c'est génial. Super. Merci beaucoup, Paul. Où est-ce qu'on peut te retrouver, et où est-ce qu'on peut retrouver toute l'actualité d'Hommage au-delà de sur le site?
Mon retour sur LinkedIn, j'essaie de prendre la parole et de raconter un peu ma vie, la vie d'Hommage, donner un peu d'infos sur la mode, pourquoi ça pollue, mes engagements personnels sur d'autres thématiques qui n'engagent pas Hommage, mais qui expliquent tout ce qu'on se disait au début de l'entretien sur l'avion, le végétarisme et tout. Enfin, j'essaie de parler un peu de tout ça. J'essaie de parler aussi un peu des dessous de l'entrepreneuriat, montrer que c'est pas toujours facile, que Hommage, c'est aussi beaucoup de galères, des projets qui n'ont pas toujours marché, etc. Et pas que les beaux succès que tout le monde annonce sur LinkedIn, même si nous aussi on a des beaux succès à annoncer. Et après, Insta pour Hommage. Alors après, moi je conseille vraiment aux gens de de s'abonner à notre newsletter parce qu'il se passe plein de trucs. On a Mathilde qui s'occupe de ça, qui a une super plume, qui raconte plein de trucs, qui a des suggestions régulièrement de produits, il y a des offres, il y a des ventes exclusives qui sont disponibles que aux personnes qui sont inscrites. Donc on essaye d'animer ça de manière sympa, et puis forcément notre compte Insta où on essaie de raconter un maximum de trucs.
Super, et ben on manquera pas de s'inscrire à ta newsletter et de vous suivre sur Instagram.
Trop bien.
Merci beaucoup, Paul.
C'était la chronique marketing. Retrouvez l'ensemble de cette interview en format écrit sur notre web média www.affectavec3f.fr. Si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ciao.